Si la quête des origines, le besoin de mettre au clair ses racines sont devenus de véritables lames de fond, les motivations des enquêtes peuvent être très différentes. Une grande majorité de ceux qui s'adressent à un généalogiste professionnel entendent franchir les siècles jusqu'à la limite des possibilités d'investigation. Ils veulent connaître les éléments clés de la vie de leurs ancêtres les plus éloignés. Mais il n'est pas rare d'être sollicité pour des enquêtes davantage ciblées sur certains ascendants dont la vie, mal connue, suscite des interrogations au sein de la famille. L'histoire que je vais vous conter maintenant en fait partie. Elle débute à Séville, la capitale de l'Andalousie, dans la dernière partie du XIXe siècle. La ville a un passé prestigieux, a connu ses siècles d'or, mais son déclin s'est amorcé depuis la fin du XVIIIe siècle. Les personnages qui nous intéressent y jouent un rôle modeste. Commençons par Manuel de la Torre. Ne vous fiez pas à la particule pour en faire un aristocrate. En espagnol, la particule « de » dans un nom n'est en effet pas nécessairement une marque de noblesse. Le « de » indique habituellement le lieu, la ville, le village ou le lieu dit d'où la personne tient ses origines. Par ailleurs, au XVIe et XVIIe siècle, beaucoup de gens, quelles que furent leurs véritables origines, s'auto-déclarèrent un droit à la particule. Et ce n'est qu'au XVIIIe siècle que la noblesse espagnole adopta la coutume française du « de » comme marque identifiante. Mais de nombreux roturiers portaient déjà la particule, ce qui rendit l'usage du fameux « de » incertain et incita la noblesse à ajouter des informations de descendance. Résumons rapidement ce que l'on sait des origines de Manuel, puisque tel n'était pas l'objet des recherches. Il est né en octobre 1861 à Séville, et on connaît ses ascendants sur deux générations jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, dans les villes andalouses que sont Antequera, pour les de la Torre, Archidona ou Arquidona pour les López, Séville pour les Andana ou Grenade pour les Jiménez. Son père, José, est arrivé à Séville venant d'Antequera, plus au sud, dans une zone un peu montagneuse de la province de Malaga. Simple journalier, il a épousé une Sévillane, Josefa Andana. Lorsque Manuel rencontre et épouse, en 1882, Maria del Carmen Monzan, d'un an sa cadette, il travaille à la fonderie de l'arsenal de Séville à la fabrication de munitions et d'obus de canon. Carmen, elle, depuis l'âge de 13 ans, est employée comme cigarera à la manufacture royale de tabac de Séville. À cette époque, elles sont ainsi près de 6000 ouvrières à confectionner des cigares, tâche pour laquelle elles sont réputées plus habiles que les hommes. Les origines des Monzan ou Monzan, le Z ou le S, sont plus mystérieuses. Le grand-père de Carmen a émigré à Barcelone venant du Piémont. La famille est donc italienne. Il a épousé une catalane avant de s'établir à Sanlúcar de Barrameda, à l'embouchure du Guadalquivir, au bord de l'Atlantique. C'est de là que s'embarquèrent le conquistador Fernando Cortés pour le Mexique ou Magellan pour sa première navigation autour de la Terre. Le père de Carmen, Francisco, est né à Sanlúcar. Mais comme celui de Manuel de la Torre, il va chercher un meilleur sort à Séville, où il deviendra cordonnier. Il s'y marie avec Maria del Carmen Enrique y Escudero. Les premiers enfants du couple que forment Manuel et Carmen naissent presque chaque année à Séville. En 1883, Alejandro, en 1884, Luisa, César en 1885, Patrocinio en 1886 et José en 1888. En 1890, deux ans après, dans des circonstances qui ne seront pas élucidées, Manuel entend parler de la forteresse Isabel II de la Mola, dominant la baie de Mahon sur l'île de Minorque, dans l'archipel des Baléares. C'est un monument considérable, entouré de hautes murailles avec des batteries de canons. Il a été construit entre 1848 et 1875 pour se protéger contre d'éventuelles agressions de la marine anglaise. Pour un spécialiste des canons comme Manuel, alors âgé de 30 ans, c'est l'espoir d'une vie meilleure et il décide de la saisir. Il est probable qu'avant de quitter son travail à l'arsenal de Séville, il entretient une correspondance avec les autorités militaires et ne voulant pas lâcher la proie pour l'ombre, il obtient un engagement en bonne et due forme. Au début de l'année 1891, le couple embarque sur un bateau à vapeur avec trois de leurs enfants seulement, Luisa, Patrocinio et José. Alejandro, 8 ans, et César, 6 ans, restent à Séville, sans doute avec leurs grands-parents. Ils ne rejoindront leurs parents que 4 ans plus tard, en 1895. L'aventure commence avec la descente du Guadalquivir, sur un peu plus de 100 km, jusqu'au port de Cadix, qui s'ouvre sur l'océan Atlantique. De là, un autre bateau leur permet de franchir le détroit de Gibraltar pour longer la côte méditerranéenne de l'Espagne, contourner Ibiza puis Majorque, avant de débarquer dans le port de Mahon, capitale de l'île de Minorque. La famille habite pendant quelques mois dans la vieille ville de Mahon, dans une toute petite maison, alors que Manuel travaille tout de suite à l'arsenal de la forteresse. Carmen était enceinte au moment du départ de Séville et son sixième enfant, Santiago, va naître dans la vieille ville de Mahon en septembre 1891, avant que toute la famille ne s'installe l'année suivante à la Mola. La forteresse occupe une esplanade d'une centaine d'hectares sur lesquels plusieurs maisons étaient dévolues au personnel civil. Trois nouveaux enfants du couple vont naître à la Mola. Maria, en 1893, Juan, qu'on appellera aussi Jean-Baptiste, en 1896, et Isabelle, en mai 1900. Elle reçoit le prénom de la reine qui a baptisé la forteresse où vit la famille. Alejandro et César sont recensés pour la première fois à la Mola en 1895. Ils ont alors 12 et 10 ans. La famille est encore au complet lors du recensement de 1900. Mais pour celui de 1901, il n'y a plus de traces d'Alejandro et de César. Ils auraient eu alors 16 et 18 ans, 18 et 16 ans. Sont-ils décédés? Sont-ils partis vivre ailleurs leur vie pour échapper à l'oppression un peu carcérale de la vie dans la forteresse? Nul ne le sait. Et personne dans la tradition familiale n'a même connu et n'aurait connu leur existence sans ces recensements miraculeux collectés par le généalogiste. En 1901, cela fait donc 10 années que la famille vit dans ce complexe militaire coupé du monde, défendu par des colonies de batteries. Une ligne polygonale brisée ferme la péninsule de la Mola, qui consiste en un fossé limité par des parois verticales, un chemin couvert bordant la partie supérieure du fossé et un glacis qui entoure l'ensemble. Un univers de casemates, de casernes, de poudrières, peuplé de soldats toujours en exercice. Si Manuel y joue un rôle à travers son métier, qui consiste à usiner des obus de canon, l'existence de Carmen et de ses enfants a dû être particulièrement pénible et solitaire, surtout avec les souvenirs de la vie gaie et animée de Séville. Même la ville de Mahon, toute proche, est inaccessible et la famille ne s'y rend qu'en de rares occasions. Les recensements, toutefois, ont permis d'apprendre qu'un instituteur prenait en charge sur place l'instruction, même sommaire, des enfants du personnel de la forteresse. En 1901, donc, Manuel, il a 40 ans, Carmen, 39, Luisa, la fille aînée, 17, Patrocinio, 15, José, 13, Santiago, 10, Maria, 8 et Juan, 5 ans. Le malheur va frapper cette année avec la mort de José, atteint d'une fièvre typhoïde. Mais c'est aussi l'année du départ pour l'Algérie. Quelle explication donner à un tel changement de vie? Sans doute le poste de maquinista occupé par Manuel n'avait plus de raison d'être, car il n'a pas été remplacé après son départ, comme le montrent les recensements qui suivent. La forteresse de la Mola, en effet, n'a jamais joué le rôle assigné à sa construction. C'est qu'avant même qu'elle soit achevée, elle était devenue obsolète, du fait de l'évolution importante de la technologie d'artillerie. Tout le système de défense de l'île avait dû être reconsidéré, et sans doute l'activité de Manuel n'était plus indispensable. Par ailleurs, l'Algérie exerçait une attraction forte sur les Minorquins depuis la conquête française de 1830. La famille de la Torre, le père, la mère et 6 enfants, s'établissent à Sidi Moussa, dans la Mitidja, à une vingtaine de kilomètres au sud d'Alger. Sidi Moussa est un de ces nombreux villages de la colonisation, construit lui en 1852 sur un carrefour de route, avec son église minuscule, son bistrot, son école, sa poste, ses maisons aux tuiles rondes et ses gourbis. Et tout autour, des vignes à l'infini. Sur le choix de la destination, on ne peut que formuler des hypothèses. Manuel avait fait le choix de quitter Séville pour Minorque en 1891, mais sans doute 10 ans plus tard, il se trouve cette fois contraint de prendre un nouveau départ. Son univers à lui, ce sont les arsenaux, la métallurgie. Il s'est forgé, déformé des pièces de métal, les assemblé. La seule chose connue avec certitude, c'est qu'il existait à Sidi Moussa des forges et une importante fonderie de machines agricoles. Manuel savait, à l'évidence, qu'il y aurait du travail pour lui. La première mention de la famille de la Torre en Algérie est un acte de mariage de juillet 1901 à Sidi Moussa. Louissa, la fille aînée, épouse ce jour-là Antoine Compagny. Elle a 17 ans et son mari 36. Notre Manuel s'appelle maintenant Emmanuel et il est cité dans l'acte comme journalier. À cette date, il n'a donc pas trouvé d'emploi stable. Parmi les témoins du mariage, on note la présence du frère du mari, Jean-Baptiste Compagny, qui est lui forgeron à Sidi Moussa, et d'un beau-frère, également forgeron, dans un village proche, Larba. L'environnement professionnel métallurgique est déjà en place. L'année suivante, en novembre 1902, nouveau mariage à Sidi Moussa. Cette fois, c'est la seconde fille, Patrocinio, 17 ans, qui épouse Jean-Baptiste Compagny, le frère d'Antoine, âgé lui de 25 ans. Et à nouveau, parmi les témoins, on note un forgeron de Sidi Moussa. Les deux sœurs de la Torre ont ainsi épousé deux frères, espagnols comme elles. La famille Compagny, originaire de la communauté valencienne, au nord-est de la province d'Alicante, était déjà établie en Algérie depuis un demi-siècle. En mars 1903, Carmen, qui est âgée de 41 ans, donne naissance à Emmanuel, son dixième enfant. Le père de famille, cette fois, a retrouvé son ancien état. Il est redevenu forgeron. Quelques mois plus tard, en septembre, la sœur du bébé, Patrocinio, met au monde Jean-Baptiste Compagny. L'oncle et le neveu ont ainsi le même âge. Enfin, en octobre 1906, Carmen, 44 ans, accouche de son dernier enfant, que l'on prénomme François. Si Manuel ou Emmanuel est toujours cité comme forgeron à cette date de 1906, il habite avec sa famille la ferme Guélabou. Cette indication nous est précieuse, car le domaine de Guélabou, entre Larba et Sidi Moussa, est une des plus importantes exploitations viticoles d'Algérie, propriété de Michel-Louis Pellagri, un immigré mallorquin à la réussite fulgurante. Surnommé le roi de la vigne, c'est aussi le maire de Sidi Moussa. La ferme Guélabou, située au centre du domaine, s'étend sur une superficie de 900 hectares, dont 440 plantés en vigne. La maison du maître est entourée de 10 bâtiments servant à loger les ouvriers et leurs familles. Le personnel stable, celui qu'on emploie pendant toute l'année, comprend environ 250 personnes. La ferme est dotée de sa propre forge, d'un atelier de mécanique et de charronnage. C'est là que Manuel va exercer son art. Progressivement, les enfants vont prendre leur envol et quitter le foyer. Après le mariage des deux filles aînées, en 1901 et 1902, Santiago s'unit à Julie en 1910, alors qu'il n'a que 19 ans. Le couple s'établit à Crescia, un village tout proche de Sidi Moussa. 10 ans plus tard, en 1920, Jean-Baptiste épouse Laurence et s'installe à Larba. Puis c'est au tour d'Isabelle qui se marie avec Jérôme Ferrer, qui est, devinez, forgeron, et d'Emmanuel qui épousera Gilberte en 1903 dans le village de Fondouc. Seule Maria, l'une des enfants, n'est pas restée en Algérie. À la ferme Guélabou, elle a rencontré Aureliano López, un Espagnol qui y travaillait. Ils se marient, mais retournent vivre en Espagne, à Iniesta, dans la province de Cuenca, où ils vont tenir une boulangerie. Leur fils unique, Thomas, sera tué à l'âge de 14 ans, pendant la guerre civile espagnole. L'un des deux grands personnages de cette histoire, Manuel de la Torre, décède relativement jeune, entre 1920 et 1925, à Sidi Moussa. La date du décès n'a pu être trouvée. Carmen, sa veuve, rejoint alors leur fils Emmanuel au Maroc, où il vient de s'installer en 1925 avec sa femme et sa fille âgée d'un an. Il a été engagé comme contremaître au domaine viticole de Beni Hamar. Celui-ci se situe à 35 km de Casablanca, mi-chemin entre Ben Slimane et Mohamedia. C'est un domaine assez important qui existe toujours et qui produisait surtout un vin de muscat liquoreux très apprécié. Progressivement, Emmanuel va y faire venir et engager une grande partie de la famille. Jean-Baptiste Compagny, le mari de Patrocinio, d'abord, puis son frère, le frère d'Emmanuel, Santiago. Mécanicien, tourneur, ajusteur de métier, il va venir s'occuper à Beni Hamar du tracteur Massé Ferguson, des camionnettes et de toutes les installations des chais. Emmanuel, pour sa part, avait en particulier en charge les nombreux tracteurs à mettre en route chaque matin. François, le dernier né, va faire son service militaire à Alger, puis il gagne à son tour Beni Hamar, où il travaille quelque temps avant de s'installer à Casablanca, où il se marie en 1929 avec Ascension. Carmen quitte alors Beni Hamar pour venir vivre avec son plus jeune fils. Elle s'installera ensuite chez Emmanuel, à Casablanca. C'est là qu'elle décédera, en juin 1939, à 76 ans. Elle avait conservé sa nationalité espagnole. Quel destin pour l'ancienne cigarière de Séville, confinée 10 ans dans une forteresse de Minorque, avant de tout recommencer en Algérie et de terminer sa vie au Maroc, après une vie d'épreuves, marquée par la disparition de plusieurs enfants. elle aura néanmoins eu la satisfaction d'assister à la réussite de plusieurs membres du clan de la Torre au Maroc. Le domaine de Beni Ammar avait un dépôt important à Casablanca. Emmanuel, qui transportait le vin entre le domaine et l'entrepôt, va en prendre la responsabilité, travaillant avec son neveu Jeannot Compagnie. Puis il créera sa propre affaire, et avec son frère Santiago et son neveu, ils seront à la tête des prospères transports de la Torre et du garage La Moricière de Casablanca. Leurs descendants vivent tous aujourd'hui en France, où le grand périple familial a trouvé son terme.